C'est le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et à la une ce matin, le retour de mauvais souvenirs à la pompe. Après une nette accalmie l'an dernier, les prix de l'essence grimpent de nouveau. C'est flagrant depuis l'été. On va vous expliquer pourquoi. On se demandera aussi si ça va durer. Combien seront-ils à ne pas aller travailler ce matin faute d'être vaccinés? L'obligation vaccinale entre en vigueur pour 2 700 000 personnels de santé. Et vous l'entendrez, la France n'est pas la seule à l'imposer. Dans ce journal aussi, le bien-être animal, préoccupation des éleveurs au Salon international de Rennes. Et Neymar, Mbappé, Messi, le trio infernal parisien en Ligue des Champions ce soir.
Au micro de Léa Salamé à 7h50, aujourd'hui c'est la romancière et poétesse Cécile Coulon. Elle publie « Seule en sa demeure », c'est aux éditions L'Iconoclaste. Prendre le volant, Alexis, coûte de plus en plus cher.
Ouais, cela fait plusieurs mois déjà que les prix du carburant augmentent, mais cette fois, c'est vraiment perceptible à la pompe. En moyenne, ces jours-ci, 1,56€ le litre de sans plomb 95, plus 20% en un an, avec des flambées par endroits, presque 2€ dans certaines stations-service parisiennes. Doucement, l'essence retrouve ses niveaux d'avant-Covid. Et à Quimper, dans le Finistère, Émilie le constate très concrètement.
Ça augmente de plus en plus et à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête, quoi. Moi ici, là, j'ai 70 litres, donc 1,50€, ça fait 100€, on dépasse les 100€. C'est flagrant. Après, malheureusement, là, le fait est que de toute façon, il faut bien aller au travail, donc on met du gasoil dans le véhicule. Je travaille sur Concarneau, je travaille sur Lorient de temps en temps. Je dois être à un plein tous les 15 jours, donc voilà, on est à 200, un peu plus de 200€ par mois. Qu'on met dans l'essence, on le met pas dans autre chose. Ça fait un gros delta, ouais.
Émilie, automobiliste bretonne au micro de France Bleu Breizh-Izel, voilà pour le constat. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Alors comment l'expliquer cette hausse?
Alors premier facteur, la reprise de l'activité en Europe et partout dans le monde. C'est une bonne nouvelle économique en soi, mais cela se traduit par une hausse généralisée de la demande du pétrole, en particulier en Chine et aux États-Unis, les deux plus gros consommateurs. Ensuite, il y a toujours un peu de géopolitique derrière les hausses de cours du brut, en l'occurrence l'Afghanistan avec le retrait américain mi-août et les incertitudes qui pèsent maintenant sur la présence américaine au Moyen-Orient. Enfin, l'aléa climatique, les ouragans qui ont frappé ces dernières semaines le golfe du Mexique, mettant à l'arrêt des dizaines de plateformes en mer. Autant de facteurs, Alexis, qui expliquent la hausse des cours mondiaux. Selon les experts du marché pétrolier, le baril pourrait atteindre les $100 d'ici la fin de l'année. On est actuellement à $74, déjà un peu plus haut qu'avant la crise sanitaire. Les pays producteurs se sont engagés sur des hausses timides de production dans les prochains mois, ce qui pourrait un peu freiner la hausse. Mais pour l'instant, les cours du pétrole continue bel et bien de tirer l'ensemble des prix de l'énergie, carburant, gaz, électricité vers le haut.
Fabien Cazot, chef du service économie de France Inter. Merci Fabien. Dans le Gard, on scrute ce matin le ciel avec inquiétude. De nouvelles pluies sont prévues à partir de la mi-journée après les violentes et soudaines intempéries d'hier. Une personne est toujours portée disparue après une chute dans un cours d'eau. Les établissements scolaires resteront fermés aujourd'hui dans tout le département. Le Gard qui, comme 7 autres départements, est en vigilance orange ce matin. Nous serons en direct du Gard dans le journal de 8h.
Il est 7h33. Infirmière, aides-soignants, pompiers, ambulanciers, tous, Alexis, doivent être vaccinés ce matin.
En tout cas, avoir reçu une première dose pour pouvoir continuer à travailler et être payé. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur l'obligation vaccinale pour les personnels de santé. Ils sont 2 700 000 à devoir justifier de cette primo-injection. C'est fait pour la très grande majorité d'entre eux. 95% des fonctionnaires des hôpitaux publics, selon le gouvernement. 89% dans les EHPAD. Un peu moins chez les pompiers ou les ambulanciers. Quelques poches de résistance aussi qui font craindre une désorganisation de certains services. Dans la Drôme, par exemple, l'hôpital de Montélimar a déjà dû déprogrammer certaines opérations non urgentes. Mais qu'en est-il ailleurs dans le monde? Eh bien, la France n'est pas la seule à avoir fait ce choix de l'obligation vaccinale pour les soignants, Olivier Poujade.
L'Amérique du Nord, l'Australie, la Russie, une poignée de pays européens avec à chaque fois les mêmes conséquences pour les plus réfractaires, mise à pied, sanctions disciplinaires, licenciements ou démissions, quelques tentatives de contestation, des actions en justice groupées de personnel soignant, en cours d'instruction en Italie, plainte rejetée aux États-Unis où Joe Biden a préféré transmettre au niveau fédéral la décision d'imposer ou non l'obligation vaccinale, idem en Russie. Les maires de Moscou et de 7 autres villes ont été les premiers en juin à motiver ce choix pour faire face à la propagation du variant Delta. Les autorités britanniques ont invoqué la même raison au cœur de l'été et désigné dans un premier temps les employés des maisons de retraite qui devront s'y astreindre au mois d'octobre. Mais derrière les justifications sanitaires, le calcul politique a parfois du mal à se dissimuler. En Hongrie, certains observateurs voient dans l'empressement d'imposer la contrainte vaccinale l'obsession chez le Premier ministre Viktor Orban de remporter la course à la vaccination en Europe pour mieux camoufler le sous-financement de son système de santé et aborder les élections législatives du mois d'avril en position de force.
Les explications d'Olivier Poujade. Et dans d'autres régions du monde, c'est la pénurie de vaccins qui inquiète, particulièrement en Afrique, où la vaccination ne décolle pas en raison d'un manque cruel de doses. Seuls 3,5% des Africains sont aujourd'hui complètement vaccinés. Le dispositif d'entraide COVAX ne suffit plus, selon l'Union africaine, qui demande donc aux laboratoires de vendre directement leurs vaccins sur le continent. Esther Benbassa ne fait plus partie du groupe écologiste au Sénat ce matin. Elle vient d'en être exclue après les accusations de harcèlement moral à son encontre. Dans une enquête de Mediapart il y a quelques semaines, d'anciens collaborateurs de la sénatrice évoquaient un climat de terreur. Esther Benbassa réagit à cette exclusion, dénonçant, je cite, un simulacre de procédure interne. C'est devenu une préoccupation majeure des consommateurs aujourd'hui, le bien-être animal. Alors à leur tour, les éleveurs s'en emparent. C'est même le thème de la 35e édition du Salon international de l'élevage à Rennes cette semaine, avec des innovations assez étonnantes dans le domaine. Manuel Ruffez est à Rennes pour Inter.
C'est une brosse rotative comme on en voit dans les stations de lavage auto, mais celle-là équipe de plus en plus de fermes d'élevage de vaches. Elle se déclenche quand l'animal s'y frotte, effet immédiat.
Ça leur procure vraiment des bonnes sensations, ça les masse, ça leur fait du bien. Elles adorent ça, c'est l'extase.
Philippe Briand, de la Chambre d'agriculture de Bretagne, travaille depuis des années sur le bien-être animal. Il passe ce bien-être par ce matériel qu'il présente sur ce stand intitulé « Espace pour demain ». Mais pour lui, c'est d'abord la relation à l'animal qui joue, douceur et affection.
Ces animaux retiennent ce contact positif et donc ils ne sont pas dans la crainte, ils ne sont pas dans la peur. Ça facilite le travail de l'éleveur en termes de manipulation, contention. S'il faut donner un médicament aux animaux, c'est plus facile. Ça fait des animaux plus calmes.
Notre salon de l'élevage doit refléter l'actualité du secteur. C'est le cas du bien-être animal, plaide Anne-Marie Kemener, commissaire générale. Indissociable, dit-elle, du bien-être de l'éleveur.
Si un éleveur a toutes les conditions de bien-être pour l'exercice de son métier en termes de confort de travail et de rentabilité, il sera forcément aussi dans de bonnes dispositions pour être en bonne relation avec ses animaux.
Il faut qu'on s'empare de cette question, vous dit-on ici. Elle est trop souvent laissée à des personnes qui ne s'occupent jamais d'animaux.
Manuel Ruffez, l'agriculture sur France Inter. Une enquête publique lancée aujourd'hui sur le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. Projet controversé qui vise à enfouir à 500 mètres sous terre les déchets les plus radioactifs des centrales françaises. Pendant 5 semaines, partisans et opposants pourront donc s'exprimer, promet la commission chargée de cette enquête. Mais sur place, les collectifs opposés à ce projet CIGEO et déjà très mobilisés dénoncent, je cite, une vaste fumisterie. Les déchets nucléaires, le bien-être animal, autant de sujets qui préoccupent Greenpeace. L'ONG fête ses 50 ans aujourd'hui. En un demi-siècle, c'est devenu un mastodonte de la cause environnementale, implanté dans 57 pays, 3 millions d'adhérents. Bref, la petite association des débuts a bien changé, Thibault Lefebvre.
C'est en septembre 1971 que Greenpeace a été créé autour d'un événement fondateur. Le combat des tout premiers militants écologistes qui ont embarqué à bord d'un chalutier, le Phyllis Cormac, pour dénoncer les essais nucléaires américains au large de l'Alaska. Rémi Parmentier est un des pionniers français de l'association. Il s'est engagé en 1974.
J'ai commencé grosso modo à l'âge de Greta. À l'époque, c'était complètement nouveau, l'environnement. À mon époque, quand on s'engageait, on assumait le fait qu'on allait être stigmatisé. Il n'y avait pas de projet de carrière. Alors que maintenant, faire un passage par Greenpeace, c'est sans doute pas mal dans un CV.
Les nouveaux militants seraient donc plus ambitieux, mais aussi moins fidèles à Greenpeace. C'est en tout cas ce que constate le directeur général de l'association, Jean-François Julliard.
Aujourd'hui, On voit apparaître des gens qui ont envie de s'engager, un coup pour Greenpeace, un coup pour une autre organisation. Et puis en fonction des sujets sur lesquels on travaille, ils arrivent avec des choses qui sont plus naturelles, sur le fait de moins prendre l'avion. Enfin, il y a des choses qui sont plus évidentes pour ces jeunes-là qu'elles ne l'étaient pour les militants des années 70.
Greenpeace appartient aujourd'hui à un mouvement climat plus global, avec de nouvelles associations comme ANV COP21 ou Extinction Rébellion, qui partagent les mêmes valeurs, mais attirent un public plus jeune.
Et sur franceinter.fr, retrouvez aussi l'histoire de Greenpeace en 8 grands coups d'éclat. Aux États-Unis, le plus haut gradé du Pentagone redoutait fin 2020 que Donald Trump n'attaque la Chine. Révélation d'un livre de journaliste apparaît dans quelques jours. Le général Milley s'inquiétait tellement de l'état mental du président qu'il a alors pris l'initiative d'appeler son homologue chinois pour le rassurer. Il a aussi fait promettre à ses adjoints de ne pas obéir immédiatement à un éventuel ordre extrême de Trump, par exemple sur l'usage de l'arme nucléaire. C'est une crise qui ne fait plus vraiment la une, mais qui n'est toujours pas résolu. Depuis 2017, la Catalogne, gouvernement espagnol et séparatistes catalans doivent reprendre leurs négociations aujourd'hui, après un an et demi de suspension. Pour l'occasion, le Premier ministre Sanchez fera lui-même le déplacement à Barcelone. Mais les chances d'un accord sont infimes. Madrid refuse toujours la principale revendication indépendantiste, l'organisation d'un nouveau référendum d'autodétermination.
En Ligue des champions de foot, 7h40, un score qui ne reflète pas les efforts de Lille.
0-0 hier soir contre les Allemands de Wolfsburg à l'occasion de la première journée. Pourtant, les Lillois ont dominé toute la rencontre. Ce soir, place au Paris Saint-Germain qui se déplace à Bruges en Belgique. Éliminés en demi-finale l'an dernier, les Parisiens arrivent cette année avec l'étiquette de favoris, grâce notamment à leur sublime trio d'attaque. Messi, Neymar, Mbappé. Mais attention, le favori au départ en Ligue des Champions n'est pas forcément celui qui gagne à la fin, Jérôme Val.
Au début des années 2000, c'est la période des galactiques du Real Madrid, celle des salaires mirobolants pour attirer les plus grands noms du football. Le portugais Luis Figo, Zinedine Zidane, le brésilien Ronaldo, l'anglais David Beckham. Difficile de faire mieux et pourtant, durant toutes ces saisons, la Maison Blanche du Real ne glane qu'une seule Ligue des Champions et connaît même une énorme désillusion en 2004 avec une élimination par Monaco en quart de finale. Après sa victoire en 2012, Chelsea est de nouveau candidat au titre. Le club londonien ne sortira même pas de la phase de groupe. Plus près de nous, Liverpool, sur le toit de l'Europe il y a 2 ans, descend vite de son nuage. La saison suivante, les Reds sont sortis dès les 8e de finale. Depuis son pharaonique recrutement estival, ce qui en fait la 3e équipe la plus chère du monde derrière les deux clubs de Manchester, le PSG a toutes les cartes pour enfin décrocher cette Coupe d'Europe, à condition de ne pas tomber dans les chausse-trappes de la Ligue des Champions.
Bruges, PSG, c'est ce soir à partir de 21h.
Alexis Morel, merci. Merci, la politique à suivre.